Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pageau, Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui Kevin Sorel, qui est un nouveau contributeur au blog. Il a publié un bon article il y a quelques semaines sur le symbolisme de l'éclipse. J'avais été très content de lire l'article quand il l'a soumis. Je n'avais pas pris le temps de réfléchir plus que ça au symbolisme derrière l'éclipse, mais c'est vrai que ça a la peine de s'y arrêter parce qu'en rétrospective, il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient très intéressés par ça, notamment des gens séculiers qui réagissaient de façon très, très forte. Là, je connais plein de gens, mettons, qui ont pris toute l'après-midi de congé, puis après, capotaient vraiment beaucoup sur ce qui se passait là, puis le fait qu'ils ont vu l'éclipse totale, etc. Fait que, je trouve que c'est intéressant d'y penser, puis l'article de Kevin, c'est la chose qui m'a permis le plus de comprendre pourquoi il y a des gens qui étaient autant intéressés par ça. Donc, sans plus attendre, Kevin, pourrais-tu nous donner une petite introduction à l'article, puis après ça, on va se mettre à discuter, là-dessus.
Oui, donc j'ai été inspiré en premier par un commentaire de Mathieu Pajot qui disait que l'éclipse est comme un secret qui est pas censé être révélé. Et c'est pour ça qu'on peut pas le regarder avec nos yeux. Et donc ça, c'est la première idée qui m'est venue. C'est l'idée qu'il y a comme un mystère incompréhensible. Et ça me fait penser à Dieu, comment on comprend Dieu. Dieu, il y a un certain aspect incompréhensible. Donc, Dieu peut pas complètement rentrer dans notre tête, sinon il serait pas Dieu. Et donc, je commence avec cette idée-là. Et je développe un peu après l'idée de la relation entre le soleil et la lune. C'est un peu comme la relation entre l'humanité et la divinité. Donc, même dans plusieurs religions, païenne, le soleil est considéré comme Dieu. Puis c'est une observation qui est comme très naturelle à faire parce que le soleil, il illumine tout et donc il rend tout intelligible.
Puis on ne peut
De
pas
même
regarder le
manière.
soleil non plus. Ça, c'est intéressant là, quand même. C'est grâce au soleil qu'on voit tout, mais on ne peut pas voir le soleil. Si tu essaies de le regarder, c'est en fait il y a trop de lumière. Tu es capable de rien voir du tout.
Et donc, dans l'éclipse, on a la Lune qui vient cacher le Soleil. Et donc, si on dit que le Soleil est Dieu, et donc il perd sa lumière par le fait qu'il est caché par la Lune, donc c'est comme si le Soleil mourait. Et donc, j'avais réfléchi à ça et je me suis dit en même temps, je me suis rappelé que dans les évangiles, on dit qu'il y avait une noirceur durant la crucifixion. Et il y a plusieurs auteurs chrétiens qui disent justement que cette noirceur-là, c'est une éclipse. Et un des plus connus, c'est justement Denis l'Areopagite. Et qu'est-ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est aussi un des auteurs très importants qui a touché à l'idée de l'incompréhensibilité de Dieu. Donc, on a une première association avec la crucifixion. Et ensuite, j'ai fait un lien avec la résurrection. Parce que tout de suite après que la Lune arrête de cacher le Soleil, c'est là que on peut pas regarder parce que le Soleil il brille d'une lumière encore plus forte et c'est ça qui endommage nos yeux. Et donc c'est je le vois un peu comme une lumière de la résurrection. Et le dernier aspect auquel j'avais réfléchi, c'est l'idée de la déification. Et ça, c'est spécifiquement quand la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés, parce qu'on va voir au milieu, qui est la Lune, qui est complètement noire, qui est comme couronnée par la lumière du Soleil. Et donc, si on dit que la Lune représente l'humanité et le Soleil la divinité, c'est comme si l'humanité est maintenant couronnée de la divinité. Donc, les deux sont parfaitement unis.
Ouais, ça c'est, je pense que surtout le dernier aspect que tu dis, c'est vraiment le mystère de l'éclipse là. Puis c'est comme le mystère de la couronne en général. Tu sais, Mathieu, il en parle beaucoup. Tu sais, moi j'ai fait allusion à ça à plusieurs reprises là. Tu sais, disons le problème de la gloire, le problème de la couronne. C'est que la couronne c'est comme un supplément. Tu sais, c'est comme quelque chose qui dépasse l'être puis qui est comme une sorte de multiplicité là. Et Mathieu, il a son idée de l'espace couronné par le temps. J'ai l'impression que dans l'éclipse, on a comme un genre d'aperçu de c'est quoi ce symbolisme-là, là, qui est assez mystérieux d'ailleurs. Mais moi, en tout cas, quand j'ai lu l'article, j'ai trouvé que c'est drôle parce que c'est ça qui est fascinant, c'est que j'avais pas lu l'article. Puis là, Kevin et moi, on s'est vus parce Kevin est à paroisse avec moi. Puis là, on a commencé à parler. Puis là, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses? Ça pourrait être l'éclipse. Puis là, je commençais à donner des exemples. Là, je voyais qu'il se mettait à rire. Parce que tu sais, on arrivait pas mal aux mêmes conclusions, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis tu sais, mais je savais pas, en fait, Kevin, que Denis l'Areopagite avait dit que la noirceur à la crucifixion, en fait, que c'était un éclipse. Ça, c'était la première fois que je voyais ça. Tu sais, intuitivement, tu sais, c'est comme on dirait que c'est normal que ça soit un éclipse. La chose qui fait que c'est difficile que ça soit un éclipse, c'est parce que ça dit que la noirceur durait 3 heures. Ça rend ça un peu compliqué, tu sais, que ça soit une éclipse, mais c'est clair qu'au niveau symbolique, l'éclipse, ça a tellement du sens, c'est parce que c'est vraiment c'est comme si la divinité de Jésus était la plus cachée sur la croix, puis en même temps secrètement révélée, tu sais. C'est ça un peu l'idée de la couronne qui fait comme dépasser de la noirceur, là, tu sais, dans une éclipse totale, que c'est comme si le soleil, quand il est caché, tout d'un coup, la couronne apparaît, puis là, tu vois. Si tu es capable de voir, c'est-à-dire si tu as la capacité de voir, tout d'un coup, la divinité de Jésus apparaît sur la croix d'une façon mystérieuse, tu sais, d'une façon qui est comme cachée, révélée en même temps, là. Comme le seul moment où on peut regarder un peu le soleil, comme brièvement pendant l'éclipse, où le soleil est assez obscurci qu'on est capable de regarder. Comme immédiatement avant, tu essaies de regarder, tu vas être aveuglé. Puis immédiatement après l'éclipse aussi, si tu n'arrêtes pas de regarder, tu vas être aveuglé aussi. Donc il y a cet aspect-là comme Dieu qui devient homme puis qui s'abaisse pour qu'on puisse regarder ça, mais ça reste quelque chose qui est comme trop loin pour nous, qui va nous blesser. Facilement. Un autre aspect que je trouve spécial là, sur cet aspect-là, c'est comme astronomiquement, c'est peut-être une raison pourquoi il y a autant de gens qui perdaient la tête en regardant l'éclipse, c'est le fait que les dimensions sont autant exactes, que le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais la Lune est 400 fois plus proche, fait que c'est exactement la dimension qu'on a besoin pour que ça fasse une éclipse où le soleil est obscurci, mais en même temps, on voit comme un peu la lumière derrière la lune pendant l'éclipse. J'ai pas essayé de penser plus, tu sais, comme qu'est-ce qu'il y a Ça, c'est derrière assez ça, mais. fascinant, là, c'est-à-dire, ça, c'est un moment où la réalité phénoménologique apprime clairement sur, c'est comme juste l'espèce de rotation des astres dans le vide, là. Puis, c'est sûr que moi, j'ai pas tendance à aller là, à parler de ça, mais il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux. T'sais, si quelqu'un te dit en éclipse, c'est juste la Lune qui passe devant le Soleil, ça n'a comme aucun sens. Mais l'expérience de voir les deux disques étant exactement la même grandeur, qui passent l'un devant l'autre. C'est exactement de ça que le sens dans notre vie est fait, ce genre de pattern-là, où il y a comme deux choses qui se mettent en lignée, puis tout d'un coup, ils révèlent leur relation qui est comme une sorte de relation d'identité, là. Fait que c'est difficile de dire que c'est juste un super beau hasard qu'on a, que la Lune et le Soleil sont exactement, et 400, comme tu dis, 400 fois plus gros, mais 400 fois plus proche. Hein. C'est normal que les gens, je sais pas moi, que quand il y avait des éclipses solaires, ils capotaient, là, ils pensaient je sais pas quoi. Je sais pas exactement ce que les gens pouvaient penser, mais clairement que c'était important, là, que c'était pas juste quelque chose qui se passait. Puis la réaction des gens, c'est comme tu dis, ça nous a montré que c'est important. Tu pourrais dire que c'est pas important l'éclipse, disons, au niveau où juste c'était juste matérialiste. Mais comme tu dis, pourquoi d'abord que même les gens les plus séculiers, les plus athées, ils sont allés la voir? Puis pourquoi que, tu sais, quand j'étais à l'aéroport, malheureusement, je suis à l'aéroport, mais tu sais, comme sur CNN, tu sais, qu'ils montent toujours à l'aéroport, là, ils claquaient l'éclipse, puis là, c'est comme ils montraient, OK, là, il est plein à tel endroit, là, après ça, comme 5 minutes plus tard, là, il est plein à tel endroit, puis ils arrêtaient pas de nous le dire. Puis c'était comme, tu sais, ils sont vraiment obsédés, là. Ils passent toute la journée à parler de ça, là. Si on regardait le stream de la NASA, il y avait un stream de la NASA comme qui montrait l'éclipse comme bien, là, puis les présentateurs, ils perdaient un peu la tête. C'était vraiment comme un événement un peu liturgique pour eux, là, puis je comprends. Magique, là. Ouais. C'est quand même un genre de liturgie un peu naturelle, incroyable. Puis, veux pas, le soleil puis la lune, c'est des catégories symboliques qu'on comprend tout un peu intuitivement quand même, là. Même si c'est pas super explicite dans notre culture. T'sais, le fait que c'est à cause du soleil qu'on a la vie, puis que la nuit on dort, puis c'est là qu'on voit la lune. Puis en plus, il y a d'autres associations quand même incroyables, là, comme le fait que le cycle lunaire puis le cycle des femmes, c'est à peu près le même nombre de jours. Puis
Ouais.
que la lune vient comme refléter parfaitement le soleil comme une journée par mois avec le cycle de fertilité aussi. Comme il y a des associations normales comme homme-femme avec le soleil et la lune qui sont très primordiales, que les gens comme vont peut-être pas dire explicitement, mais après ça, quand il se passe des événements astronomiques avec le soleil et la lune, ben ça va quand même les chercher.
Oui, surtout que les anciens, le cercle de la Lune, tu sais, c'est-à-dire la sphère de la Lune, quand tu penses aux planètes qui passent, là, les sphères célestes, c'est la sphère de la Lune, c'était la sphère du changement, c'était la sphère qui était le plus reliée à la Terre parce que c'était là que le changement commençait à opérer. En haut de la Lune, c'était des patterns totalement réguliers, tu sais, où les planètes partent toujours au même endroit, tu sais, tu peux savoir où ils vont être. Mais la Lune, tu sais, la Lune, c'est une variation. Notre expérience de la Lune, c'est-à-dire qu'elle passe de la lumière à la noirceur à la lumière. C'est vraiment comme un reflet de la Terre d'une certaine façon. Tu peux le comprendre comme un reflet du Soleil parce que la lumière est dessus, mais un reflet de la Terre parce que c'est l'as céleste dans lequel il y a un genre de il y a des changements. Fait que tu sais, de dire, comme tu dis, même au niveau juste de l'expérience de voir cette affaire-là, ce rond-là, qui passe de clair à sombre, de clair à sombre, que c'est relié à notre expérience de jour, nuit, tu sais, il y a comme une relation entre la Terre et la Lune au niveau symbolique. Puis de penser ça, que la Lune passe devant le Soleil, tu sais, qu'elle cache le Soleil. C'est vraiment, tu peux vraiment facilement comprendre pourquoi que c'est souvent apocalyptique. T'sais, comme qu'il y a une tendance apocalyptique, les gens vont mettre leur apocalypse dans l'éclipse un peu naturellement à cause que quand le changement obscurcit la lumière, t'sais, quand la partie changeante de quelque chose, elle obscurcit sa raison, bien, en général, ça mène à la mort. C'est ça que ça fait. Alors, c'est intéressant. Puis le fait, comme tu dis, Kevin, que tu relis ça à la crucifixion, tu sais, même à travers les pattes d'église, c'est le symbolisme est totalement cohérent.
Un autre aspect de l'expérience humaine de ça, c'est. J'avais été surpris personnellement à Québec, j'avais pas fait trop d'efforts parce que ça disait que l'éclipse était comme à 98,66 %. Je me suis dit, tant que ça, je vois pas comme aller. Ça me tentait un peu de l'avoir, mais j'aurais jamais voulu aller conduire 1 heure pour l'avoir à 100 %. Je me disais, pour 1,34 %, c'est quoi la différence que ça va faire? Mais pour vrai, tu sais, en pratique. Si j'avais pas su qu'il y avait une éclipse, je me serais peut-être rendu compte de rien, là, parce que le 1,34 % de soleil qui passe, ça faisait quand même que concrètement, à peine comme s'il y avait des nuages, là, peut-être, autour de moi. Mais tu sais, je peux facilement imaginer à cause de ça que, mettons, quelqu'un qui était pas au courant de l'astronomie il y a 500 ans, regarde pas spécifiquement ce qui se passe dans le ciel. À un moment donné, ça commence à être comme à peine un peu sombre, puis là, tout d'un coup, pouf, il y a juste comme plus de soleil. Là. Tout d'un coup, il n'y a plus de lumière. En plus, apparemment, ça fait descendre la température globale quand même pas mal parce que, t'sais, il y a plus de soleil. Fait que, mettons, 4-5 degrés de différence. Fait que, tout d'un coup, il fait froid, il fait noir. Tu n'as comme rien vu aller. C'est juste comme arrivé rapidement que tout s'est obscurci. Puis là, ça dure quelques minutes où tu penses que c'est comme la fin du monde. Puis après ça, finalement, ça revient. Mais je peux comprendre que, t'sais, pour des gens qui n'avaient pas la NASA qui est capable de tout prédire exactement ce qui allait se passer, ça a l'air d'être comme soudainement la fin des temps qui arrivent.
Est-ce que vous l'avez vu, toi, Kevin? Est-ce que tu l'as vu complète?
Oui, je l'ai vu dans un parc à Montréal. Et à peu près 1 heure avant, ce que tu vois dans le ciel et un peu partout, c'est comme si le monde perd la couleur et tout devient un peu comme des nuances de gris. Puis quand l'éclipse était totale, il y a un événement un peu drôle. Les gens se sont mis à applaudir. Puis moi, j'étais avec mes amis, puis on s'est tous dit que c'est comme. On dirait que c'est tellement quelque chose qui n'aurait jamais pu arriver dans le monde ancien, là, que les gens
Ah oui,
applaudissent une éclipse,
applaudissements.
parce que pour eux, c'est quasiment, tu sais, la fin du monde, là.
Oui, ça, c'est-à-dire notre façon de participer, tu sais. La façon moderne de participer, c'est d'applaudir, tu sais. La façon de célébrer, de reconnaître, c'est toujours d'applaudir. Fait que, tu sais, c'est juste drôle que les gens se mettent à applaudir la lune. C'est qu'on applaudit l'éclipse. Mais c'est génial en même temps, tu sais, ça montre comme quoi c'est impossible de totalement se distancer de ce désir-là de participer à un événement cosmique. T'sais, c'est comme il y a quelque chose au niveau matérialiste qui est le plus loin de toi que ça, mais t'sais, l'espèce de désir de participer, il est tellement fort. Moi, ça, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai juste, quand j'étais à l'aéroport, j'ai juste vu comme si un nuage passait. C'était ça l'expérience. Je voyais qu'il faisait plus sombre. Je voyais les gens dehors sur le tarmac qui regardaient puis qui prenaient des tickets, qui filmaient. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Ma famille sont allés à Granby pour vraiment avoir l'éclipse complète. Puis Richard Rowland aussi. Il est allé voir l'éclipse complète. Puis une des choses qu'il a dit, c'est que c'est vraiment comme si la nuit arrive vite. Mais tu sais, tous les phénomènes de la nuit qui arrivent, ils se passent comme vraiment rapidement. Genre, les oiseaux se mettent à chanter comme vers le coucher du soleil. Puis après ça, quand il fait noir, ils arrêtent de chanter. Puis là, tout d'un coup, les insectes se mettent à sortir de la terre. Il dit qu'il voyait les insectes sortir de la terre. Puis là, ça dure juste quelques minutes. Puis là, après ça recommence. Puis les insectes qui retournent. Puis là, les oiseaux se mettent à chanter. C'est assez fascinant, là. C'est comme, tu sais, c'est vraiment la mort, là. Tu peux vraiment, tu sais, imagine, là. Ben moi, je n'ai pas eu l'expérience de ça. Si tu entends les oiseaux chanter, puis d'un coup, ils arrêtent. Clac. C'est vraiment puissant. C'est le fun parce que ça nous donne quelque chose, tu sais, pour les gens qui sont totalement séculiers, tu sais, de pouvoir essayer de. Leur poser des questions par rapport à leur engouement pour un événement comme ça. C'est pourquoi que ça crée cet engouement-là. C'est de pouvoir aussi aider les gens à saisir, par exemple, que nous, on est à l'intérieur, fait que ça prend un événement comme un éclipse solaire totale pour attirer notre attention. Mais on peut comprendre que, par exemple, les gens qui étaient dehors toujours, qui étaient attentifs au cycle céleste, que par exemple, les solstices, les équinoxes, c'était aussi quelque chose à remarquer, t'sais. Parce que tu as les journées qui rallongent, qui rallongent, qui rallongent, qui rallongent, puis d'un coup, tu as comme un apogée, puis là, les journées se mettent à raccourcir. Mais ça aussi, c'est vraiment un truc, tu peux comprendre pourquoi les gens, comme nous, on applaudit l'éclipse, là, t'sais, pourquoi les gens voulaient célébrer ce moment-là. Ou le reconnaître au moins parce que c'était un événement qui est pas aussi spectaculaire là, dans les quelques minutes, puisque nous, notre attention est captée en 10 minutes, là. C'est pour des gens que leur attention était capable d'être portée sur des plus longs termes, que c'était un événement similaire à un éclipse là, dans l'expérience.
Très bien. Pour continuer, je serais curieux de t'entendre parler peut-être un peu plus, Kevin, sur un truc que tu faisais sortir dans ton article, c'était Dieu comme le plus grand inconnaissable, puis la mort comme un autre inconnaissable. Puis ce lien-là entre les deux, comment c'est résolu ou exploité dans l'éclipse, disons.
Oui, j'avais eu l'idée parce que j'avais déjà entendu Jonathan parler de comment il y a les ténèbres divines et comme les ténèbres inférieures, et que c'est seulement le Christ qui a réussi à unir les deux. Puis quand il avait dit ça, j'avais pas trop compris qu'est-ce que ça voulait dire, mais j'ai cru comprendre un peu de ces aspects-là en réfléchissant à l'éclipse. Et donc, pourquoi on parle de ténèbres divines? C'est parce que les ténèbres sont vraiment associées à l'incompréhensibilité. Et je vois dans Dieu, Dieu est incompréhensible, mais l'autre aspect de l'incompréhensibilité, c'est la mort. Parce que la mort, c'est la fragmentation. Donc, c'est la perte de l'identité, de l'unité. Et quand on pense à comment on comprend quelque chose, c'est tout le temps parce qu'on le comprend comme une chose unifiée. Et donc, s'il y a la perte de l'unité, il y a la mort, mais il y a la perte de la compréhension. Et donc, les deux ténèbres, divines et inférieures associées à la mort, sont vraiment différentes. Et c'est important de ne pas les confondre. Mais il y a justement cet aspect un peu bizarre-là qu'on dirait dans l'éclipse. On pourrait peut-être dire que les deux sont unis, comme dans la crucifixion du Christ. Parce que le Christ étant Dieu, il est immortel, mais ils décident de mourir. Donc, c'est comme ces deux opposés qui viennent ensemble. Et c'est comme si ça l'éclate un peu notre rationalité, notre manière de comprendre les choses.
Ouais, quand on lit les. T'sais, si jamais quelqu'un est intéressé de vraiment avoir une expérience de paradoxe par rapport à cette question-là, c'est dans le service du Vendredi Saint, le service de lamentation qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est le service du samedi, en fait, excuse-moi. C'est le service du samedi saint, mais c'est qu'on le fait le vendredi soir. Là. Il y a comme un service de lamentation sur la tombe de Jésus. T'sais, le Christ est amené sur une table. Il y a comme un tissu avec le Christ, soit brodé ou soit peint, qui est amené sur une table devant nous. Puis là, il y a un service de lamentation. Puis dans ce service-là, les hymnes sont vraiment incroyables. Ils essaient vraiment de nous faire de joindre l'incompréhensibilité de Dieu avec l'incompréhensibilité de la crucifixion. T'sais. Fait que c'est-à-dire toutes les phrases sont structurées en paradoxe. C'est-à-dire celui qui a mis qui a accroché les étoiles dans le firmament est accroché sur la croix. Celui qui a. Puis c'est comme une espèce de cycle d'analogie où on dit, dans le fond, celui qui est à l'origine du monde, c'est lui qui est en train de mourir en ce moment pour essayer de lier l'incompréhensibilité de Dieu avec l'incompréhensibilité du Christ dans les tombeaux. De Christ qui meurt sur la croix ou qui est mis dans le tombeau. C'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, c'est ça un peu le mystère du christianisme. C'est pour ça, souvent, je dis, tu sais, on dit que Jésus, que le Christ, le Logos, est alpha et oméga, c'est le début et la fin. Puis, on a comme l'idée de la descente aux enfers comme étant un peu le secret. En tout cas, dans la tradition orthodoxe, on dit souvent le vrai secret de Pâques, c'est le samedi. C'est-à-dire, il y a le vendredi, la crucifixion, oui, il y a la résurrection, oui, mais le secret ou le mystère de Pâques, c'est le samedi, c'est-à-dire le jour dans le tombeau. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, c'est quoi le Christ mort dans la tombe? Puis, tu sais, j'ai l'impression que Kevin t'a bien capté ce mystère-là, tu sais, le plus possible là, dans ton article sur l'éclipse, puis d'utiliser l'éclipse comme un exemple de ce paradoxe-là.
Ah, très bien. J'ai pas vraiment d'autres questions de mon côté. Je trouve que c'est bien, on a fait le tour du plus important. Je sais pas s'il y a d'autres aspects que vous voulez faire ressortir ou des aspects de ton article, Kevin, dont tu voudrais parler plus.
Non, mais j'aurais peut-être des questions pour vous. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le seul moment où est-ce qu'on peut regarder l'éclipse avec nos yeux, c'est lorsqu'elle est totale? On ne peut pas le voir avant ou après.
Mais tu sais, c'est intéressant de voir que dans l'histoire de la crucifixion, le soldat romain, il reconnaît le Christ
Ouais.
quand il est mort. Tu sais, c'est assez fascinant quand même. Puis il le reconnaît aussi à cause de l'éclipse ou à cause des ténèbres et à cause des tremblements de terre et tout. Mais c'est quand même fascinant de voir que, tu sais, que le soldat romain dit ceci, était vraiment le Fils de Dieu, qui le dit au moment de la mort. T'sais. Puis qu'on dirait qu'il y a comme un peu de ça dans l'idée de l'éclipse où il y a quelque chose de mystérieux qui fait. Mais tu sais, on pourrait le comprendre, t'sais, donc on pourrait le comprendre de façon plus banale, c'est-à-dire que de comprendre la raison du voile, c'est-à-dire la divinité. T'sais, il y a quelque chose dans la désacralisation qui fait qu'en fait, on ne va pas voir le Dieu quand on désacralise. Tu peux imaginer, là, t'sais, comme, je sais pas moi, quelqu'un qui rentre, t'sais, d'ailleurs, c'est un exemple classique, là, c'est quand l'empereur, je pense que c'est Caligula, oui, c'est Caligula, quand il est rentré dans le lieu très saint des Hébreux, t'sais, parce que lui, il était comme, moi, je veux voir ce qu'il y a là, là. Je ne me souviens plus c'est lequel, c'est peut-être Adrien, en tout cas, un des empereurs. Il a dit, moi, je veux voir ce qu'il y a là. De toute façon, je suis l'empereur, je peux aller où que je veux. Puis là, il ouvre le truc, il rentre là-dedans, puis il est comme, il n'y a juste rien ici, là. C'est comme, c'est quoi l'affaire? C'est quoi votre truc? Il n'y a juste rien. Tu comprends? Puis il y a quelque chose comme ça dans la désacralisation que tu penses que si tu désacralises, que tu vas avoir accès au mystère, mais non, en fait, tu ne pourras pas le voir. Tu vas juste voir, à la limite, rien. Ou à la limite, un monstre, tu sais. À la limite, quelque chose qui ne peut pas se manifester à toi là, de façon cohérente. Puis qu'il y a comme une nécessité d'un voile, puis qu'en fait, le voile, il rend la manifestation du divin possible en le cachant. T'sais. Puis que t'sais, parce que d'ailleurs, c'est assez intéressant, là, quand Moïse descend du mont Sinaï, ça dit que son visage était radieux, t'sais, que son visage était radieux, mais il y a une autre traduction de ce mot-là, c'est-à-dire que son visage était défiguré. Puis, tu sais, il y a comme une ambiguïté sur les deux, et de savoir c'est quel, il était-tu monstrueusement défiguré ou son visage était radieux. Puis, on pourrait dire d'une certaine façon que c'est ça le mystère de la manifestation du divin, c'est-à-dire, c'est pas évident, c'est comme si tu es préparé à le voir, ben là, tu vas avoir une rencontre avec le mystère, mais si tu n'es pas proprement préparé, tu vas. Tu sais, nous, on mange le corps et le sang de Jésus, là. Tu comprends? Il y a des choses, tu sais, il y a comme un truc. On voit ça, je ne sais pas, moi, je viens juste de lire, ça fait comme un mois à peu près, j'ai lu le roman de C.S. Lewis, Till We Have Faces. Puis il y a ça, il y a ce mystère-là dans ce roman-là où il y a une femme qui est mariée avec un dieu. Puis c'est pas évident, c'est pas clair si elle se fait violer, si. C'est pas clair si en fait c'est un genre de monstre, un tueur, si c'est quelqu'un qui fait semblant, un trickster, on ne sait pas. Puis le Dieu dit à sa femme, regarde-moi pas. Tu ne peux pas me regarder jusqu'à temps que je te dis que tu es prête à me regarder. Puis là, finalement, elle brise la règle, elle fait comme le voir, puis là, elle se fait rejeter à cause de ça. Mais il y a quelque chose dans ça, tu sais, il y a quelque chose dans l'idée du voile comme étant un facteur de la capacité d'interagir avec Dieu au bon niveau qu'on est capable de le recevoir. T'sais. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ça aussi qu'en fait le mystère de l'éclipse révèle cet aspect-là, t'sais, qu'en fait, que c'est quand le soleil est caché que tu peux le regarder. Puis que c'est
Ouais.
comme il y a un mystère qui est accessible à toi quand le soleil est caché, que il n'est pas accessible quand tu as comme la plénitude de. Tu sais, dans l'histoire de Jonas, il y a ça, l'histoire de Jonas, il y a la même chose. L'histoire de Jonas, il le fait un peu en blaguant, là, où là, Jonas, il sort de la ville, puis là, il s'en va, puis là, il est genre sous le soleil et le vent, c'est-à-dire sous le soleil, la lumière et l'esprit. Puis là, ça le brûle, ça fait comme le taper, puis il est comme Dieu, donne-moi une couverture, là, tu sais. Mets-moi quelque chose pour me couvrir, puis là, Dieu lui donne un plan, tu sais. Là, il est comme relax en tout son plan, puis là, il lui enlève. Là, Jonas, il est fâché parce que ça le brûle, tu sais. La lumière le brûle. Fait que tu peux comprendre ça, tu sais. Même le soleil commence à agir sur nous, là. Si tu t'en vas juste tout nu au soleil, tu vas juste brûler, là, tu sais. Puis il faut que tu te couvres pour avoir accès au soleil. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça un des aspects du mystère qui est montré dans ça, là.
Ouais, le truc qui m'était venu en tête quand tu as posé la question, Kevin, c'est. Je pensais à ça aussi tantôt avant quand on parlait, mais je n'étais pas capable de formuler comme quelque chose de conclusif. Mais un aspect que je trouve mystérieux, c'est pourquoi est-ce que, t'sais, pour qu'on puisse voir Dieu, il fallait qu'il aille jusqu'à la crucifixion. On se demanderait pourquoi est-ce que l'incarnation n'aurait pas pu être plus mollo, mettons. Pourquoi est-ce qu'il était obligé d'aller comme complètement jusqu'en bas? C'est quand même mystérieux de prime abord, là. Mais. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça dans l'éclipse aussi, là, où, un peu comme moi, naïvement, je pensais que j'avais pas besoin de 100% d'éclipse pour voir l'éclipse. Peut-être 99,66, ça aurait sûrement été correct. Là. On aurait pu dire, ben, t'sais, Dieu n'avait pas besoin d'aller comme 100% jusque dans la mort pour qu'on le voit. Peut-être qu'un peu moins, ça aurait fait la job. Mais on dirait qu'il y a cet aspect-là de comme à quel point la voie était étroite là, pour qu'on voit vraiment l'éclipse. Tu avais comme 3 minutes si tu étais placé à la bonne place, puis là, tu étais capable de regarder le soleil. Le reste du temps, comme moindrement qu'il y a de lumière qui passe, c'est trop. Ça va juste te brûler. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça aussi dans comme la capacité de reconnaître Dieu dans l'incarnation. On parlait souvent de symbolisme sur cette chaîne-ci, puis il y a plein de symbolisme qui est résolu ultimement sur la croix. Puis c'est un moment où il y a comme plein de lumière, il y a comme plein de choses que tu vas finalement pouvoir comprendre grâce au symbolisme de la crucifixion. Si on n'avait pas ça, ce serait vraiment dur de faire le sens, tu sais, du christianisme. Ce serait dur de faire fonctionner tout le reste du symbolisme chrétien si on n'avait pas la crucifixion. Fait qu'on dirait comme étonnamment que tu avais besoin de cette clé-là qui était comme le plus bas possible pour aller pour que tout le reste fasse du sens. Sinon, ça aurait été impossible à regarder. Dieu aurait été comme trop loin, trop surintelligible pour qu'on puisse le voir. Comme juste avant la crucifixion ou juste après la crucifixion, c'est comme on dirait c'est pas assez pour voir Dieu si tu n'as pas la clé entre les deux de la crucifixion.
Ouais, parce que quand tu parles, tu sais, là, je me suis rappelé aussi, tu sais, le bon larron. C'est assez fascinant aussi, tu sais, ce qu'il dit. Tu sais, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Tu sais, le monsieur, il est en train de se faire crucifier sur la croix, là. Ça dit, de quoi tu parles quand tu dis ça? Ça dit, il a vraiment reconnu le Messie au moment de sa mort. Tu sais, c'est assez marquant. Tu sais, puis c'est comme on dit que c'est le premier qui entre au paradis, là, même dans les icônes de. Du jugement dernier, on montre toujours le bon larron comme étant le premier qui est comme rentré au paradis. Ça, c'est assez fascinant, là, tu sais.
Un peu comme le visage de Moïse. T'sais,
Ouais.
ceux qui sont prêts, ceux qui ont le cœur pur, sont capables de reconnaître que c'est radieux, mais les autres, ils voient juste une défiguration.
Ouais. Ouais. Mais ça, mais c'est intéressant parce que. En même temps aussi, dans l'histoire, le voile est déchiré. Fait qu'il y a comme les deux qui se passent en même temps. C'est ça, ben, c'est ça que toujours qui est mystérieux. Mais pas ça. Il y a tellement de choses dans la crucifixion qui dérangent. Là. Mais ça, c'est un aspect qui. Tu dis à la fois que c'est comme le voile ultime. La mort, c'est vraiment le voile final. Là, où là, tout d'un coup, la vie elle disparaît derrière un corps inanimé, là, où tu es comme. Mais en même temps, tu sais, que le voile se déchire en même temps, tu sais.
Il y a quelque
Ouais.
chose avec Marie aussi. C'est un peu elle comme le nouveau voile, là, ben le nouveau temps. Puis elle est là. Puis en plus, il y a le côté symbolisme féminin, la lune, avec Marie aussi. Je ne sais pas s'il y a de quoi là, faudrait que je pense plus, mais il doit y avoir quelque chose.
Mais c'est là que l'Église est établie, là. L'Église est établie sur la croix parce que c'est à ce moment-là qu'il dit, en tout cas pour les chrétiens traditionnels, là, tu sais, ça dit, il dit à Jean, ceci est ta mère, il dit à Marie, ceci est ton fils. Tu sais, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit, là, qu'il est en train aussi d'établir l'Église à ce moment-là comme une sorte de nouvelle, une communion, mais aussi une relation entre le corps, tu sais, notre relation au corps, là. Fait que c'est fortement possible qu'en effet.
Ce genre d'obscurcissement-là, tu sais, maintenant le corps, Jésus disparaît d'une certaine façon derrière l'Église, là,
Ouais.
où il y a
Mais tu sais, il y a
l'ascension qui
plein
vient plus
d'affaires
tard, là.
aussi par rapport à la crucifixion qui est liée à l'incarnation comme telle, là, puis qui est liée à la naissance du Christ. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a une image, je pense que c'est 14e siècle, je pense. Il y a une image de la Vierge, une image de la descente de la croix, où elle tient le Christ d'une certaine façon, puis la façon qu'il est placé, le Christ, il passe comme entre ses jambes, puis là, elle est placée comme si elle accouchait de Jésus. Puis elle tient le corps mort de son fils, mais la façon qu'il est placée comme s'il était en train d'accoucher de lui. Tu sais. C'est assez fort là, comme image. Puis l'image aussi de dans l'incarnation, dans l'image de la nativité, le Christ est représenté comme étant dans le tombeau en même temps. T'sais, la façon que le Christ est emmailloté dans la crèche, souvent la crèche est en pierre. T'sais. Il ne pas bien mettre de crèche en pierre pour les ânes et les bœufs. Ça dit, on fait pas une. Puis la façon souvent qu'on le représente, la crèche, elle est représentée comme vraiment comme un tombeau. Là. Un mélange entre un tombeau puis un autel, là, tu sais, des fois on dirait c'est un autel, des fois c'est un tombeau. Fait que c'est clair qu'il y a comme une relation en toutes ces choses-là. Tu sais, le voile de la Vierge aussi, il est vraiment important là, dans le symbolisme chrétien ou dans le symbolisme orthodoxe, en tout cas en particulier. Mais dans le symbolisme catholique aussi, il est très important. Tu sais, il y a toute l'image de ce qu'on appelle. Il y a une on a une fête là, tu sais, qui est le fête, la fête de. Du voile de la Vierge, où la Vierge est apparue à Constantinople avec son voile au-dessus de la ville, comme ça, comme une sorte de protection là, de la ville, quand les barbares attaquaient, puis c'est ça qui a comme protégé la ville. Fait que oui, en effet, tous ces symboles-là, sont clairement reliés.
C'est une bonne question. Pour le continuer à y réfléchir.
Oui, ça, mais là, je patauge. C'est comme pour voir comment ça connecte tout ensemble. Il faudrait un peu de temps. Là.
Ouais. Mais il y a quelque chose. C'est intéressant. Honnêtement, c'est. Je trouve ça drôle. J'ai l'impression que j'étais très matérialiste sur l'éclipse. On dirait, moi, de mon côté, j'étais comme. Avant de lire l'article de Kevin, ça m'intéressait pas plus que ça. Je me disais, ben, il se passe quelque chose. Hein. Les causes matérielles
Mais c'est nos
dans.
réflexes, hein? C'est notre réflexe naturel. Moi, je le vois. Tu sais, moi, je suis vraiment matérialiste, là. Souvent, là, c'est ça comme exactement la même chose. Tu sais, quand les gens s'excitent pour des choses qui, en fait, c'est totalement normal qu'ils s'excitent pour ça. Tu sais, moi, je suis comme. Moi, je suis super cynique, hein? Par rapport au miracle, toutes ces affaires-là, je suis hyper cynique, là. Tu sais, je suis pas du tout quelqu'un qui croit à ces choses-là à la base. Pourtant, j'y crois. Si tu me demandes, est-ce que tu crois au miracle, je crois au miracle. Mais tu sais, quand j'entends parler d'un miracle, tu sais, je suis comme. Ouais, pas sûr. Tu sais, comme les icônes qui soignent de l'huile, là. Il faudrait que j'envoie une, sérieux. T'sais, là, des fois, j'entends des gens, des témoignages. J'ai parlé à une sœur récemment qui m'a dit qu'elle a vu l'icône. Il y avait une icône à Montréal qui suintait pendant comme super longtemps, là, pendant plusieurs années qu'elle suintait. Puis elle connaissait le monsieur qui était le gardien de cette icône-là. Puis c'était juste une reproduction en passant, c'est juste un morceau de papier. Puis elle me l'a dit, elle me dit, c'est vraiment le first person là, de témoignage. Elle me dit, j'ai passé la nuit à garder l'icône. Parce que quelqu'un, fallait toujours qu'il garde l'icône. Puis lui, le monsieur, des fois, il y a d'autres gens qui la gardaient. Puis j'ai passé la nuit à garder l'icône. Puis elle dit, je me suis mis la face, là, la face devant comme ça. Puis je regardais l'icône. Puis elle dit, je vois l'huile qui perle à travers le papier, puis qui coule. Elle me dit, c'est ça, mais tu sais, moi, c'est comme on dirait, je suis Thomas, là. Moi, il faut vraiment que j'en voie une avant d'y croire. Fait qu'on est matérialiste,
Ouais,
malheureusement. En tout cas,
de base.
moi, tendance, disons, notre tendance naturelle, c'est d'être encore matérialiste.
Puis étonnamment, ça
Mais
se
c'est peut-être pour
réalise
ça aussi
des.
qu'on est capable de parler aux gens séculiers aussi, parce que, tu sais, on garde un peu un pied de ce côté-là, mais c'est peut-être pas bon pour notre âme, mais c'est bon pour le fait qu'on est capable encore de faire le pont, on n'est pas totalement attrapé par le monde enchanté. Là, on a tendance à une petite réaction d'hésitation devant ces choses-là.
Puis étonnamment, on connaît des gens pas du tout religieux, mais quand on entend parler
Qui
de l'éclipse,
applaudissent
ils sont
l'Église.
décidés. C'est ça, exact. Vont faire un pèlerinage, comme conduire 2 heures au sud pour être capable de réussir à voir ça.
Non, mais tu sais, il y a des gens qui ont pris l'avion, tu sais, il y a des gens qui prenaient l'avion pour aller, là, tu sais, parce qu'ils étaient loin du passage. C'est assez fascinant quand même.
Parfait. Bon, ben. Sur ce, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre que vous voulez rajouter, je pense qu'on a dit des choses intéressantes, puis ce serait la conclusion.
Bien, super, merci pour ton article, Kevin. C'est toujours le fun de voir les gens, surtout en français, qui participent, là.
Ça va bien le blog en français ce temps-ci. Allez voir ça. On a des articles qui sortent aux 2, 3 semaines, là. Un bon flot de contributeurs. Donc, merci à Kevin, puis à tout le monde qui contribue. À bientôt.